sur le papier, j'ai tout ce qu'on appelle pour être une vieille fille. J'aime les chats, j'aime lire de longues heures, ne pas échanger une parole, être seule, quitte à ne pas sortir de chez moi pendant plusieurs jours. Ça, c'est sur le papier. En vrai, je suis tout le temps dehors à courir les spectacles, je vois du monde et je me lamente de ne pas trouver plus d'une heure par jour pour découvrir un texte ou un auteur. Alors, une fois par an, j'abandonne tout. Pendant 4 jours et 3 nuits, je ferme boutique, n'essayez pas de me joindre, je ne répondrai pas. Même si Dalida revenait de l'au-delà pour me proposer de la rencontrer, je serai aux abonnés absents. Pendant ces 4 jours et 3 nuits, je quitte mon logis, j'abandonne femme et enfant que je n'ai pas. Je prépare un petit sac avec l'essentiel, des livres surtout, une trousse de toilette conséquente avec tous les masques, les crèmes que j'accumule mais que je n'ai jamais le temps de mettre et je vais à l'hôtel. Pas besoin de partir très loin, il m'est même déjà arrivé d'aller à l'hôtel dans ma propre ville. Le temps de ce séjour, je ne suis rien qu'à moi. Dans cette chambre, à moi, je suis en tête à tête avec moi-même. Aucune contrainte, aucune injonction, aucune obligation de quoi que ce soit. Ne pas être chez soi, c'est ne pas relever le courrier dans la boîte aux lettres, ne pas se dire qu'on a du rangement à faire, du linge à faire tourner, un frigo à remplir. À l'hôtel, j'accepte d'être complètement assistée. Le ménage est fait chaque jour. Le repas peut m'être servi dans mon lit. Je ne pense qu'à moi. Je fais la sieste, je veille très tard. Je renoue même parfois un peu avec la télévision qui trône dans toutes les chambres d'hôtel. Je suis une sorte d'enfant qui traîne en pyjama, mais avec une carte bleue.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kaddour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous avec la culture sur cette antenne du lundi au vendredi, histoire de vous parler de tout ce qui nous met en joie aujourd'hui. Deux auteurs réunis pour le meilleur dans un recueil de nouvelles, un hors-série de l'hebdomadaire Le 1, Nina Bouraoui et Serge Joncourt. Bonjour à tous les deux, bienvenue.
Bonjour.
Ce hors-série s'intitule Une nuit à l'hôtel. Chaque été, un recueil thématique paraît et celui-là me plaît beaucoup. L'hôtel comme lieu de tous les fantasmes, de tous les imaginaires, de tous les possibles. Est-ce que vous aimez aller à l'hôtel ?
Moi, j'adore aller à l'hôtel, mais je suis un petit peu capricieuse. J'aime les hôtels de luxe, alors c'est plutôt rare, mais je préfère aller moins souvent à l'hôtel, mais oui. Les choisir. Et je trouve que l'hôtel, c'est l'effacement, c'est la disparition, et c'est surtout, comme vous l'avez très bien dit, c'est la grande sécurité. Oui. On est en sécurité dans un hôtel.
Qu'est-ce que c'est l'effacement pour vous dans un hôtel ?
Je sais pas, il y a côtoyer des touristes, ne plus être en France, ne plus être française peut-être, devenir quelqu'un d'autre, devenir une femme qui a disparu de la ville, qui a disparu peut-être, voilà, je sais que je n'ai pas disparu, mais qui est peut-être dans la vraie vie, dans l'hôtel, il y a une sorte de lenteur, de secret. Et puis, il y a l'intimité, la sensualité, l'érotisme. L'hôtel, ce n'est pas forcément la télévision et être en pyjama. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses dans un hôtel. Il y a une dimension érotique que j'adore.
Et vous, Serge Joncourt, moi je me retrouve comme une idiote avec mon pyjama, mais c'est vrai que moi j'adore rester en pyjama ou en peignoir, mais j'avais pas pensé à la nuisette.
Vous avez le droit.
Ça viendra plus tard peut-être. Je vais y penser, Nina Bouraoui. Oui, Serge Joncourt, vous voyez en nuisette à l'hôtel ?
Nuisette, non, plutôt pyjama, non mais pas. Non, caleçon, et dans le problème, alors j'ai un problème avec la... Non, j'adore l'hôtel, moi, j'ai juste un problème avec la couette. D'une façon générale.
Et, on va y venir.
Et tous les hôtels sont rattrapés par ces bestioles. Parce qu'une couette, c'est quand même, c'est vivant, quoi. Enfin, il y a de la plume là-dedans, il y a des canards. Et quand je pousse la porte de la chambre, je les entends presque. Enfin, c'est, j'ai une fixation là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'hôtel, c'est quand même un périmètre fabuleux, quoi. Et à la limite, quel qu'il soit, il y a un moment, pousser la porte d'une chambre d'hôtel, qu'on connaît pas la plupart du temps. Donc, on découvre un univers. La vue, s'il y en a ou pas, ça peut être désolant, mais bon, après tout, c'est pas grave. Ça peut être fabuleux. Et puis, il y a une sensation, on est accepté ou pas. On s'y sent. Il y a des chambres. Moi, j'en ai fait pas mal. J'en fais plus de 100, près de 120 par an.
Lors des tournées où tu allais signer les livres, rencontrer les lecteurs.
Voilà. Et puis, parfois même, bêtement, moi, enfin, pour moi-même, à mon propre compte, on va dire, je m'expédie ailleurs, quoi, pour me retrouver sans cesse. Et c'est cet espace qui est rangé. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup de mal à à faire, moi, dans la vraie vie, quoi. Là, c'est rangé, inédit et propre. Et le lendemain, alors que c'était l'histoire, on l'a investi, on y a habité, on y a vécu. Alors, soit on y a fait un sandwich, un room service ou autre chose, ou des folies. Bon. Mais le lendemain, jusqu'à 11h, à partir de 11h, enfin, ça, là-dessus, il y a des... Alors, j'ai appris un terme que m'a appris un journaliste, Hubert Artus, oui. Une sorte de mot-clé, de sésame, quoi, qui est le late check.
C'est rendre la, la chambre tardivement.
Voilà. Alors, lui m'a donné cette info un jour, mais il m'a dit le check late. Enfin, ce qui fait que si vous êtes à l'étranger, on pense que c'est un chocolat que vous voulez. Et ça, c'est une sorte de on peut durer jusqu'à 13 heures. Ça,
prolonger le temps avant de restituer la chambre. Dans cette émission, on fait les choses un peu à l'envers. On commence avec un questionnaire la dernière fois.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
La dernière fois que vous avez offert un livre, Nina Bouraoui, c'était à qui? C'était quoi? Est-ce que vous vous souvenez?
La dernière fois, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps. C'est Le Lambeau.
Ouais.
Et c'est...
Philippe Lançon.
Voilà, et je l'ai offert à l'amoureuse d'une amie. Et je trouvais très important parce que ce livre, au-delà de la terreur, au-delà de tout ce qu'on le sait, pour moi, je lui dis, c'est une sorte, ce livre, ce serait Marcel Proust qui aurait traversé, qui aurait été victime d'un attentat. Mmh. Et puis, au-delà de cette abomination, je trouve qu'il y a cette dimension médicale, on apprend tant de choses. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est-à-dire qu'il a écrit aussi avec... d'une grande poésie sur quelque chose de tragique, mais de médical, de chirurgical. Et il nous enseigne son humanité à lui, et il nous enseigne aussi le corps humain. C'est pour ça que ce livre est un très grand livre.
Philippe Lançon, qui a subi 22 opérations après les attentats de Charlie, et qui raconte en effet tout son parcours dans ce livre dont on avait parlé dans le Mac de l'été avec Marie-Rose Guarnieri, la libraire. Est-ce que vous aimez qu'on vous offre des livres, Nina Bouraoui? Parce que offrir, c'est une chose, en recevoir, comment on fait?
Moi, j'adore. C'est plutôt quand on veut m'offrir un livre, c'est compliqué pour mon entourage.
Parce que vous avez tout lu ou parce que...
Parce que j'ai beaucoup de livres, parce que j'ai des goûts très précis, parce que je reçois des livres. Voilà, je peux aussi me servir chez mon éditeur, chez mes éditeurs. J'achète beaucoup de livres. Donc, je crois que c'est... Mais moi, j'adore parce que ça me sécurise. Pour moi, le livre, c'est le château. Mm-hmm. C'est le château fort. Ça entre aussi dans une chambre d'hôtel, un livre. C'est la même dimension.
Serge Joncourt, la dernière fois que vous avez volé un livre?
Volé?
Ouais. Est-ce que vous avez déjà volé un livre?
Alors, je ne sais pas si je l'ai volé. C'était dans une chambre d'hôtel à Annecy, ouais. Où il y avait les faux monnayeurs de Gide, mais au-dessus de l'armoire, enfin en poche,
Un livre de poche.
Mais pas sur la table de nuit, au-dessus de l'armoire. Vous me direz pourquoi je vais voir moi au-dessus de l'armoire? C'est parce que j'ai ce réflexe de mettre mon ordinateur portable sur le haut de l'armoire.
D'accord.
Au cas où, je ne sais pas. Bon, c'est...
Bah, pour un auteur, j'imagine qu'on fait attention, parce qu'il y a tout le travail qui est dedans.
Oui, et là, j'ai toujours en tête, alors, j'étais enfant à la campagne, et les informations, le journal de 13h, je ne sais plus lequel, parlait comme ça, d'un François Nourricier qui s'était fait voler une mallette dans laquelle il y avait son manuscrit. Ouais. Ça me vient en vous parlant, je ne sais plus du tout quelle année précisément. Mais ça m'avait semblé... Alors moi, j'étais gamin, je n'étais pas auteur du tout, mais ça me semblait fou qu'on puisse peut-être pas ouvrir le journal là-dessus, mais en tout cas, donc c'était drôlement grave, quoi. Drôlement grave de perdre son manuscrit. Et il y a une forme de... Ça résonne encore, quoi, cette angoisse-là. Pourtant, aujourd'hui, on peut faire des copies, des USB, des je sais pas quoi, mais...
Donc, vous placez l'objet en hauteur, en disant comme ça, il échappera potentiellement au vol. Mais revenons au vol du livre.
Et là, je trouve ce bouquin de poche pas vraiment en forme.
Ouais.
Je l'ai gardé, je l'ai toujours. Alors, je sais pas. Ce que j'aime bien, c'est... Celui-là ne l'était pas, mais quand il est annoté ou quand il y a quelque chose, ou... Parlons pas d'une dédicace. Parfois, simplement, il y a des pages sont cornées. On se dit, tiens, pourquoi là? Enfin, bon. Après, c'est pas vraiment un vol. Voler, non, précisément, je pense. Je suis assez peu délinquant, quoi. C'est...
Nina Bouraoui, vous, le vol de livres, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui racontent, je n'ai en premier que, c'est le cas dans le journal du voleur, que, le vol de livres n'est pas, amoral, que c'est beau de voler un livre, que même il incite les gens
oui,
à voler.
Oui, c'est vrai, c'est pas un vol. Moi, j'ai jamais volé de livres, mais il m'arrive d'emprunter des livres et de ne jamais les rendre. Alors
oui.
C'est peut-être une forme de vol.
C'était la question suivante, mais ouais.
J'ai jamais. Mais en revanche, on m'a volé mon premier livre. C'était Un amoureux est conduit. J'avais croisé dans la rue et il m'avait dit je sors de la Fnac. Et j'ai volé ton livre. C'est ma vengeance. Écoute, tant mieux. Je t'ai vengée. C'est bon.
La dernière fois, Nina Bouraoui, que vous avez, vous semble-t-il, mal dédicacé un livre. Parce que quand vous rencontrez beaucoup de lecteurs qui viennent vous voir, qu'il y a une file incroyable, faut avoir un mot pour chacun, faut écrire un petit quelque chose, j'imagine qu'on n'est pas toujours très heureux de ce qu'on écrit.
Alors, moi je dédicace mal parce que j'écris mal et que c'est indéchiffrable, voilà.
D'accord.
C'est ça la mauvaise dédicace. En revanche, c'est étrange, je suis très inspirée, alors c'est souvent très lyrique, toujours poétique, j'essaye vraiment... Alors on a quand même... On est un petit peu entraîné parce qu'avant la sortie du livre, enfin Serge, tu le sais, on a un service de presse et voilà, on va dédicacer 200 ou 300
livres. Vous avez une pile de livres qui vous attend et
voilà,
il faut commencer à signer.
Dans la maison d'édition et puis on commence à signer. Alors parfois, ce sont des journalistes qu'on connaît depuis très longtemps, puis peut-être un peu moins longtemps. Mais il y a une mécanique qui se met en place et alors c'est jamais. Moi, j'essaie de que ce soit jamais la même dédicace.
Oui.
Ça, c'est compliqué. Mais j'y arrive parce que finalement, je publie des livres depuis 1991. Donc ça fait un peu celle qui a roulé sa bosse, mais c'est un peu ça. Je crois qu'une dédicace, c'est essayer d'extraire le petit diamant, voilà, qui est peut-être entre les pages. C'est se faire aimer, hein. Une dédicace,
c'est une
déclaration.
D'amour, ouais.
Toujours, nous en sommes là, nous autres, les écrivains.
Et vous, Serge Joncourt?
Un peu pareil, j'essaye de ne jamais faire vraiment la même, ce qui n'est pas complètement possible. Alors pour certains livres que j'ai publiés, c'était assez facile, puis finalement on me le demandait assez peu. Vous savez, quand vous êtes en salon du livre ou des choses comme ça, ou en librairie,
oui.
Il y a, alors après l'hôtel, il y a la librairie, bien souvent, et là vous êtes attendu, ou pas, enfin je veux dire...
Oui.
J'ai eu des dédicaces avec le libraire et une amie du libraire et la femme du libraire, bon... Là, ça va assez vite, mais les libraires ont quand même cette délicatesse de toujours vous inventer des lecteurs. Alors, ça sera pour Madame Machin qui l'a demandé. Celui-là, on va l'offrir à Machin. Enfin, bon. Mais à partir de là, c'est vrai que j'essaie de... Parce que j'ai eu une hantise, c'est que quelqu'un découvre que je lui ai fait la même dédicace qu'à quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est pas grave.
Puis c'est peu probable que ça arrive.
C'est peu probable. Alors, attention, parce
que... Il y a des gens qui comparent les dédicaces qu'ils font des...
Avec Internet, tout circule. Quand vous faites une dédicace dans ce village magnifique de Poligny, au fin fond du Jura,
oui.
Sublime, superbe, un petit peu de monde, et puis paf, le lendemain. Il y a des... Sur les réseaux sociaux, vous avez une photo, vous êtes de dos, pas à votre avantage, affalé sur le livre, à essayer de faire une dédicace. Enfin bon, et puis parfois, il y a même la photo...
De la dédicace.
De la dédicace, qui est un petit peu impudique.
Mais quand vous la loupez, ça ressemble à quoi, une dédicace loupée? Nina Bouraoui nous disait que bon, voilà, c'est difficile peut-être de la relire. Est-ce qu'il y a des moments où on laisse partir le livre en disant c'est la trace
oui,
que j'ai laissée?
Avec une faute d'orthographe, truc qui n'arrive jamais, mais on ne sait pas pourquoi.
Et c'est vrai, ça vous est déjà arrivé?
Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Et on se dit, mais c'est horrible, c'est une catastrophe, c'est totalement discrédité, ridicule. C'était pas moi qui ai écrit ce livre. Et c'est moi, ça m'arrive parce que je suis super émotive et je trouve. Alors peut-être parce que mes livres sont chargés d'amour et voilà, ce sont des livres sur l'identité, mm-hmm. sur la différence, sur l'exil, sur la revendication à la fragilité, à la poésie, à la beauté. Et souvent, lorsque je fais des rencontres, c'est toujours on m'embrasse.
Oui.
Souvent, on m'embrasse et notamment, je suis dans le sud de la France, il y avait des pieds noirs. Ils me disaient voilà, Nina, on est des frères, on est des sœurs, on est les mêmes. Vous, les Algériens, on vous aime et vous en plus. Vous êtes une Algérienne avec une mère française, donc c'est encore... Et c'est tellement intense qu'il m'est arrivé parfois d'écrire des dédicaces un peu louches sur l'orthographe.
Ouais, je vous demanderai tout à l'heure de me dédicacer mon exemplaire du 1. Je pourrais mettre la photo en ligne sur les réseaux sociaux.
Vous allez faire,
on verra qui a tremblé ou qui n'a pas tremblé. On est toujours sur France Inter, 18h26 avec Nina Bouraoui et Serge Joncourt. On écoute le son du jour. Je vous propose d'écouter Bertrand Belin de Corps et d'Esprit. Lui aussi se prête à l'écriture, pas que dans les chansons.
Un point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici. Ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi. Quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant.
Le Mac de l'été, toujours en direct de la Maison de la Radio avec Nina Bouraoui et Serge Joncourt. On vous invite à découvrir ce recueil de nouvelles, Une nuit à l'hôtel, ce hors-série de l'hebdomadaire Le 1. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme. Il était blanc et a puisé toute son inspiration dans la culture zoulou. Hier, on a appris la disparition du chanteur Johnny Clegg à l'âge de 66 ans. Aux pires heures du régime raciste en Afrique du Sud, il a lutté contre l'apartheid. Il a apporté son soutien à Nelson Mandela en lui dédiant une chanson alors qu'il était emprisonné. Le zoulou blanc, comme il était surnommé, n'a cessé de se battre. Il n'a pas gagné son dernier combat contre la maladie. Le cancer a eu raison de lui.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique!
Il est de retour. retour, le Roi Lion sur grand écran, 25 ans après la sortie du Disney, cette fois-ci la version live en images de synthèse. L'histoire n'a pas bougé d'un poil. Le jeune Simba fuit son royaume, convaincu d'avoir précipité la mort de son père, le roi de la jungle, Mufasa. Mais en réalité, c'est Scar, le frère jaloux du souverain, le coupable, et c'est lui qui s'installe sur le trône, mais Simba est de retour et va lutter pour reprendre la place qui lui revient. Un film pour les petits et pour les grands, avec les voix de Jean Reno, Ryan Bensetti, Jamel Debbouze, et ne perdez pas de vue, Hakuna Matata. Et le message est clair, Sting sera bien ce soir sur scène à Lyon aux Nuits de Fourvière. L'ancien leader du groupe The Police avait annulé 6 dates de sa tournée d'été à Gand, à Bonn ou encore à Stuttgart à cause d'une infection à la gorge. Ce soir, organe au top pour interpréter ses plus grands tubes, Englishman in New York, Every Breath You Take et bien évidemment Roxanne. Si vous êtes dans les parages, un autre artiste qui a une sacrée voix, c'est Arthur Ashe à applaudir vendredi soir à Lyon.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
11 auteurs, 11 nouvelles, 11 visions d'une nuit d'hôtel. Ce recueil réunit Cécile Coulon, Sylvain Prudhomme, Adeline Dieudonné, Franck Bouys, Negar Djavadi, Caril Ferré, Ingrid Astier, Régis Geoffrey, Valérie Zenati et vous, de Nina Bouraoui et Serge Joncourt. Une nuit à Timimoun pour vous, Nina. Et une nuit presque à l'hôtel avec Serge Joncourt, qui montre dès le titre que les consignes, en gros, c'est pas complètement pour lui. Une variation littéraire qui est très très agréable. Est-ce que ça a été agréable d'écrire avec cette contrainte du lieu qu'on a dû vous imposer avec, c'est Julien Bisson, j'imagine, du 1.
Oui, c'est Julien qui m'a contacté. Non, c'est bien parce qu'on est corseté. Je trouve que c'est un vrai défi. Et puis, nous, quand on commence à écrire, normalement, enfin, en tous les cas, moi, le plan est très resserré, mais je suis pas forcément corsetée. J'aime bien ce défi. C'est-à-dire que voilà, je veux non pas faire plaisir, non pas rendre le meilleur de moi-même. Enfin, j'essaye. Mais l'hôtel, ça tombait tellement bien. Et puis moi, j'ai quand même une vie un peu de nomade. Même quand j'étais enfant, c'est beaucoup déplacé avec mes parents. Et justement, cet hôtel à Timimoun, construit par Pouillon, était un endroit exceptionnel où nous nous rendions régulièrement, au moins 2 fois par an. Donc c'était une évidence. J'ai tout de suite pensé à lui.
Vous, c'était un souvenir aussi de cet hôtel. C'est un lieu que vous avez identifié.
C'est un souvenir. C'est un hôtel qui existe encore et c'est un hôtel où j'ai passé du temps et qui m'a toujours fait fantasmer parce que un hôtel avec une piscine à débordement au centre d'une palmeraie en plein désert, c'est assez incroyable. Et Pouillon a beaucoup construit en Algérie et cet hôtel est en plus s'inspire vraiment de l'architecture de Timimoun, cette pierre rouge d'argile et de paille qui a, je crois, inspiré le village de Tombouctou. C'est l'architecture soudanaise et c'était fou parce que je me souviens au bord de la piscine, les maillots étaient tout rouges. Donc, quand on s'asseyait sur le rebord, on était absorbé par le désert.
Et la voix qu'on entend, c'est la voix intérieure d'une femme ordinaire qui vit un moment extraordinaire, une femme qui va à la rencontre d'elle-même au milieu du désert. Cette femme, quand on vous a lu, quand on lit un peu vos interviews, c'est une femme troublante parce qu'elle ressemble à la fois au portrait que vous brossez de votre mère et au vôtre.
Oui, c'est vrai.
Une sorte de rencontre.
C'est la fusion de nous deux. Je suis assez fascinée par la disparition, l'effacement. C'est-à-dire, je vais aller acheter des allumettes et je ne reviens plus. Je trouve assez... assez mystérieux, on ne connaît pas les autres. On ne connaît pas ceux qui vous ont donné la vie et parfois on ne se connaît pas soi-même. Et c'est vrai que cette nouvelle révèle toutes mes obsessions. L'exil, mais l'exil intérieur. La révélation de la nature aussi. Comment la nature nous dit ce que nous sommes. Et ça, c'était très important, la poésie du désert. Et puis, en effet, cette femme se réveille un matin, a quand même préparé son voyage, parce qu'on ne part pas comme ça dans le désert. Elle a 2 petites filles qui pourraient être, en effet, ma sœur et moi.
Oui.
Elle prend un avion. Elle prend un avion et elle se retrouve dans cet hôtel. Et là, elle va rencontrer, alors voilà, une autre de mes obsessions, une femme. Est-ce que c'est son double ou est-ce que c'est vraiment une femme qu'elle regarde, à qui elle va se confier? Et elle lui raconte qu'elle va quitter cette capitale parce que elle se croyait la sœur des hommes et des femmes algériens et algériennes.
Ça,
elle arrive après l'indépendance.
C'est l'histoire de votre
mère. C'est vraiment l'histoire de ma mère. Sauf que ma mère n'a pas vraiment vécu de rejet, même si elle a traversé la violence. Mais l'Algérie était un pays violent. Pas que ça, bien sûr, parce que c'était aussi un pays, et c'est toujours un pays d'une grande générosité, d'une grande beauté, mais d'une grande complexité. C'est un pays qui a souffert de la colonisation. Et quand ma mère arrive en 62, les Français partent, mais elle, elle arrive. Donc elle raconte à cette femme pourquoi elle part, et aussi, elle parle du couple, et ça aussi, c'est un de mes thèmes assez favoris. Voilà, l'habitude, l'usure du désir, et puis le courage de quitter deux petites filles. C'est terrible. Ma mère ne nous a jamais abandonnés, mais je trouve que parfois, pour aller vers sa liberté, pour dévier le cours de son destin et pour se faire du bien, c'est ce qu'elle dit. Je me suis imposée des années de brutalité. Aujourd'hui, je vais m'aimer, me serrer dans mes bras, donc je disparais.
Et votre écriture a de cela de très réconfortant aussi. On a la sensation que vous nous embrassez. De même que cette femme est tombée amoureuse d'un homme et elle a ensuite embrassé la terre de cet homme et elle s'interroge. Dans vos écrits, dans votre langue, il y a une musicalité aussi qui nous donne envie de faire ce chemin, d'aller se retrouver, peut-être d'aller à l'encontre de ce qu'on appelle la normalité, de la norme qu'on nous impose.
Oui, parce que qu'est-ce que la norme ?
Oui.
Je crois que nous devrions tous trouver notre norme du bonheur, notre norme paradisiaque. La norme, elle est, c'est tellement vague. Moi qui suis tellement en dehors de la norme, mais nous le sommes tous. Ce n'est pas par nos vies amoureuses ou par nos... Je suis en exil aussi de ce second pays ou de ce premier pays. Je suis une femme. Est-ce que la norme, est-ce que les femmes sont dans la norme? Je ne sais pas. Je suis un écrivain. Nous autres, nous sommes hors norme, Serge. Tu le sais aussi bien que moi. Et c'est vrai que je n'arrive pas à... Pour moi, l'écriture est extrêmement importante et que j'écrive un roman ou que j'écrive une pièce de théâtre en ce moment que je suis en train de corriger, que j'écrive une nouvelle pour ce recueil, ce sera toujours de l'extrême importance. C'est-à-dire que même si j'écris une lettre à la femme que j'aime, ce sera très important. Si j'écris un petit mot à ma meilleure amie, ce sera très important. Si j'écris une carte postale à ma mère, ce sera très important. Mais vraiment, parce que les mots, je trouve que c'est... On ne peut pas les délier de la vérité, de la poésie, de finalement... le monde est parfois d'une grande violence, nous le savons. Et moi, j'ai trouvé dans la littérature la lumière à cette obscurité-là. Et j'espère que cette nouvelle est lumineuse et poétique. Et puis elle va vers le désir, parce que cette femme va désirer une autre femme. Alors on ne sait pas si c'est elle qui a désir ou si c'est vraiment son double ou une autre femme.
On entrevoit un ailleurs qui pourrait venir aussi court-circuiter le quotidien et pourquoi pas s'y lancer. En tout cas, ça ouvre comme la fenêtre de cette chambre d'hôtel. Ça ouvre vers une autre vie potentielle.
Et puis le désert, on le compare souvent à l'océan. Le désert est une promesse, le désert est mystérieux et c'est l'origine. Moi, j'ai eu la chance de dormir contre les parois de cavernes où il y avait des dessins d'hommes préhistoriques et j'ai eu la chance de saisir une origine plus large que la mienne, l'origine de l'homme, l'humanité, les animaux, la végétation, il y a beaucoup de végétation dans le désert. Et voilà, je crois que le désert sera toujours un de mes espaces favoris dans l'écriture.
Un voyage, vous l'avez compris, avec cette nuit à Timimoun de Nina Bouraoui, dans ce recueil de 11 escapades à l'hôtel vues par de grands auteurs. Serge Joncourt, vous aussi, vous nous emmenez ailleurs, une nuit presque à l'hôtel, sans trop déflorer l'histoire, parce que ça serait dommage de priver nos auditeurs de ce plaisir. On peut dire que la scène prend place presque dans un hôtel. Moi, j'ai pensé, vraiment, en lisant cette nouvelle au début, au dernier film de Quentin Dupieux, Le Dain, avec Jean Dujardin. Vous avez parlé tout à l'heure de votre problème dans la vie avec les hôtels, c'est la couette.
Ah oui, alors, c'est vrai que c'est un territoire pour l'imaginaire, l'hôtel. Finalement, je ne savais pas lequel choisir.
Oui, parce que autant Nina, il identifiait cet hôtel.
Oui.
Vous, est-ce que vous avez une vision en tête quand vous écrivez?
Oui, un petit hôtel dans la Nièvre, à Donzy. Oui. Mais enfin, je trichais un peu parce qu'il n'y a pas de piscine dans le vrai. Enfin,
ah, vous avez reconstitué un hôtel avec...
Oui, avec une piscine improbable. Quoique maintenant, des piscines, il faudra en mettre partout. Enfin, puisque les vagues de chaleur s'accumulent, finalement, ça serait légitime qu'il y ait des piscines. Dans le Morvan, le Pas-de-Calais, partout. Enfin,
en revanche, la couette, ça serait pas légitime partout. En tout cas, c'est votre parti pris, celui en tout cas de votre personnage principal.
Eh bien, je voulais faire l'histoire de ce personnage qui va justement, il dort pas dans sa chambre. Enfin, ouais. Ce qui peut arriver parfois quand on ne demande pas le code, quand on est dans un hôtel.
Il fait trop chaud.
Il fait trop chaud. Oui, ça peut. Oui. Il y aurait beaucoup à dire sur toute la configuration, la clim ou pas la clim, le ventilateur. Enfin bon. Mais la couette, c'est quand même un élément assez fédérateur. Et on pourrait dire, en tout cas sur le continent européen, enfin, une sorte de conquête de la couette. Je ne sais pas à quel moment les couettes, je soupçonne qu'elles sont parties des pays nord, peut-être d'Allemagne. Parce que je les avais repérées, moi, les couettes en... J'avais cette chance, ce malheur d'avoir une petite amie, mon premier amour, qui était allemande, mais de l'Est, c'est-à-dire de l'autre côté. Oui. C'était compliqué. Et finalement, d'abord, je dormais à Berlin-Ouest, qui était déjà un univers en soi. Mais alors, j'ai découvert ces couettes qui font la taille du lit, finalement, mais pas plus. C'est-à-dire que je suis grand, mais enfin, normalement, quoi. Il y a toujours un moment quelque chose qui dépasse, quoi. Donc déjà là, j'ai appris à combattre contre la couette. Mais à l'époque, j'avais pas identifié qu'il y aurait une menace, parce que pour ce qui est de la France, je voyageais un peu quand même déjà à l'époque, même môme. On en était encore à la couverture en laine.
Les dredons classiques.
Voir les dredons, ouais. dans le meilleur des cas, oui. Mais enfin, globalement, c'était quand même la couverture, vous savez, couleur un peu, comment dire ça, tarama, quoi. Truc pas très appétissant, pas toujours très net, mais enfin bon, au moins, on avait repéré l'ennemi. La couette, c'est un peu mon angoisse dès que je pousse la porte de la chambre. Alors, est-ce qu'elle sera seule? Est-ce qu'elles seront deux? Parce que parfois, il y en a qui... Vous savez, il y a des subtilités, on assemble deux couettes qui sont en fait juste clipsées l'une à l'autre.
Vous avez vraiment fait une étude sur les couettes, en fait, Serge Joncourt. C'est vraiment.
Oui, alors, mais comme j'ai un vrai problème avec la couette, moi, ce que je fais...
Moi, je pensais que c'était un parti pris dans la nouvelle. Je pensais pas que vous aviez un vrai problème avec la couette.
Ah, mais pour moi, ce recueil de nouvelles est l'occasion, enfin, d'expier. Parce que ça, j'avais envie d'en parler un jour, mais faire un roman là-dessus, je sais pas. Et Julien Bisson, qui s'occupe de la revue, on l'a dit. Bah, c'est vrai, quand il m'a appelé pour en parler, j'ai tout de suite pensé à ça. Je lui dis, tiens, là. Mais en même temps, bon, c'est une vieille obsession, la couette. Moi, on faisait une émission à France Culture qui s'appelait Des papous dans la tête, oui. Qui était formidable, où ça permettait déjà. J'en ai parlé déjà. Mais c'est devenu de pire en pire. Enfin, ça, il y a plus de 10 ans à l'époque. Je pensais pas que ça serait à ce point un envahissement. Alors après, j'ai un peu étudié. Alors, la couette, duvet d'oie, duvet de canard, quelle est la plus nocive, la plus dangereuse? Quand on s'intéresse un peu à la couette, il faut considérer quand même qu'il faut 50 oies pour faire une couette. Donc ça, s'il y a de quoi culpabiliser. Enfin, on va.
C'est du vivant.
Quand même,
tout ça.
On va tous. Ouais. Pas vers l'écologie, petit à petit, on s'y met, quoi, progressivement, hein, il va encore attendre un ou deux millénaires pour qu'on se dise, mais quand même. Et là, on continue à se vautrer dans des bêtes qu'on a peut-être même bouffées à Noël, et en plus, on va leur piquer leurs dépouilles pour se foutre dedans. Mais c'est quelque chose d'abominable.
Oui, mort de rire aussi.
Non, mais moi, il m'a traumatisée.
C'est vrai.
Non, mais j'adore.
Moi, j'ai beaucoup ri. Alors, moi, j'ai pris vraiment au deuxième degré.
Oui, mais on y pense maintenant. C'est vrai. De toute façon, moi, je suis allergique aux plumes, donc tant mieux. Mais c'est vrai, c'est affreux d'avoir des cadavres sur soi. Mais tu as raison.
Oui.
Pourquoi on n'y pense pas?
En tout cas, c'est un texte très réjouissant, Serge Joncourt, parce que vous menez ça. Il y a ce dialogue entre donc ce personnage vraisemblablement très proche de vous et le patron de cet hôtel qui s'inquiète de voir ses clients ne pas accepter de dormir dans les chambres, s'inquiétant de ce qui pourrait dysfonctionner. Et on va pas révéler bien sûr la chute de cette nouvelle. Il faut aller rencontrer Serge Joncourt aussi dans son écriture. Qu'est-ce que cette nouvelle vous a permis aussi d'expérimenter en termes d'écriture, parce que c'est pas simplement produire un texte pour le livrer, pour un recueil. Il y a une recherche, bien sûr. Quel était votre test ou votre objectif sur cet exercice-là?
Vous voyez, Nina vient de parler de sa nouvelle, on aurait pu croire qu'elle parlait d'un roman.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Et quand même, il y a une dimension. Alors moi, la curiosité, quand j'ai dit oui à ce projet, c'était aussi de lire les autres et de me mettre en situation un petit peu de compétition, disons, mais pas une compétition sportive, de voir quel est l'angle. Et à chaque fois, pour ce qui est de tous ces textes, alors, franchement, ils sont bons, mais je pense aussi que le thème, quand même, il est vachement bien vu, quoi. Une nuit à l'hôtel, ça nous parle à tous, en belle, en mauvaise expérience. Bon, il y a un territoire d'imaginaire, là. Et beaucoup d'auteurs, Nina, il y a aussi Cécile Coulon, balance comme une sorte de romance. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que la nouvelle, qui est un style quand même en France, qui est pas, je veux pas dire de bêtises, mais enfin, c'est pas un style très valorisé. Enfin, disons.
Pas autant que le roman, c'est vrai.
Quand on va vers son éditeur en disant je vais écrire un recueil de nouvelles, bon, bah, il est un peu inquiet, quoi.
Il vous incite plutôt à essayer de constituer un roman avec toutes les nouvelles pour voir.
Et on pourrait avoir le sentiment qu'une nouvelle, c'est un roman qui va pas jusqu'au bout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, il y avait tout un cinéma qui me fascinait, moi, le cinéma des italiens des années 70.
Alors voilà. Mais oui, tellement.
Où il y avait des films à sketch, qu'on a un peu perdu. Le dernier film à sketch, c'était pour le Festival de Cannes, pour l'anniversaire du Festival de Cannes, où ils avaient demandé à des tas de réalisateurs de faire comme ça un film sur, bon, bref. J'aime beaucoup cette idée-là de confier un thème commun à plusieurs auteurs ou réalisateurs et voir ce qu'ils vont en faire. Et c'est quand même assez sidérant parce qu'ils sont tous différents, ces textes. Il y en a des drôles, il y en a des très intimes, il y en a des angoissants, il y en a des délirants. Celui de Geoffrey, quand même, je crois qu'il commence par j'avais une très belle vue sur le cimetière. Enfin bon, voilà. Ouais.
Et ah ça, oui, c'est 11 nouvelles, 11 ambiances. Hein. Là, vraiment, on est vraiment dépaysé.
Oui, et en même temps, il aurait fallu faire quelque chose et même ne pas mettre le nom des auteurs au-dessus du texte, comme on devine un vin, si vous voulez.
Ça, c'est les papous qui vous reviennent avec les
Oui, vous avez raison. Oui, c'est les jeux de diagnostic littéraire à l'aveugle qui sont fascinants à faire. Et là, franchement, on les aurait tous retrouvés pour peut-être mettre les noms en désordre à la page de réserve, quoi. Voilà, et ça permet aussi de remontrer ce que c'est que des auteurs, quoi. C'est quand même des êtres qui ont une façon de... Certains qui ont des choses à dire, mais en tout cas qui ont à chaque fois une façon singulière de les dire. Et ça, c'est pas rien quand même. Hein.
Il est venu le temps de rembobiner dans cette émission. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre ou nos invités. Dans le transistor de Nina Bouraoui et de Serge Joncourt, on a choisi la voix de Roland Barthes sur le métier d'écrivain. C'était en 77 sur France Culture.
C'est un métier. Je veux dire par là qu'il y a un mythe qui règne encore très souvent dans le public et même dans les milieux professionnels, que être écrivain, ça n'est pas un métier. Ou bien on le considère ça comme une fonction narcissique, ou bien comme une fonction un peu sacerdotale. Par conséquent, il arrive encore, je dirais, relativement assez souvent, qu'on vous propose d'écrire quelque chose sans que cette proposition soit du tout prise dans le cadre d'un métier. Ça se voit dans les rapports qu'on suppose entre l'écrivain et l'argent, et le fait qu'il doit gagner sa vie. Or, très souvent encore, on a l'air de considérer que écrire est quelque chose comme une sorte d'honneur qui se suffit à soi-même. Par exemple, on peut se demander si un écrivain, quelqu'un qui a écrit des livres, doit se prêter ou à des interviews comme celui-ci, ou à des prestations à la radio ou à la télévision. Eh bien, je dirais oui, tout simplement, je dis les choses franchement, il doit le faire, et ce n'est pas du tout pour des raisons narcissiques, c'est pas parce que ça lui fait plaisir qu'on parle de lui ou qu'il soit entendu, n'est-ce pas ? En réalité, si on fait ça, c'est parce que l'écrivain sent très bien que quand il écrit et quand il publie, il s'articule sur le travail d'autres personnes. Les personnes qui l'interrogent, les personnes qui l'enregistrent, il fait partie d'une économie. Et par conséquent, je dirais qu'il n'a pas le droit de se refuser à ce type d'échange et d'insertion.
Roland Barthes sur le métier d'écrivain et aussi sur ses obligations d'une certaine mesure à à être là, être un communicant. Comment est-ce que vous vivez ça,
vous, mais vous savez, c'est réconfortant d'entendre à nouveau ça. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on ne considère plus, je trouve, les écrivains. Je trouve que la vie des écrivains devient de plus en plus compliquée. Oui, c'est un métier. Mmh. Oui, il y a une économie. Oui, nous vivons normalement, si nous pouvons, de notre travail. Et il faudrait se battre pour que les écrivains ne fassent qu'écrire, n'aient pas un autre métier à côté. Et oui, nous faisons des télévisions, des radios. Alors, c'est très agréable de rencontrer les journalistes, mais en effet aussi dans le cadre d'une économie. Écrire, on en parlait tout à l'heure avec Serge, c'est incroyablement difficile. C'est une invasion, une absorption.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayez de nous expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais essayé d'écrire.
Parce
ou alors...
que c'est un métier, c'est-à-dire que écrire, c'est l'endurance, ce sont des horaires, c'est parfois...
Mais en quoi c'est plus difficile qu'un autre métier ? Parce que les autres métiers sont aussi des horaires,
parce
une endurance.
Parce qu'il vient de nous, parce qu'on est tout seul. Parce qu'il vient du cœur, il vient du cerveau, parce que c'est à chaque fois une remise en question, parce qu'à chaque fois il faut retrouver la grâce. Et il me semble que de livre en livre, on est d'autant plus exigeant. Et puis parce que parfois l'écriture disparaît. Mmh. Et puis c'est difficile parce que c'est invasif, c'est intrusif, c'est dans votre vie amoureuse, c'est dans votre vie familiale, c'est dans votre vie amicale. On écrit tout le temps. Même lorsqu'on marche dans la rue, on écrit. Alors oui, c'est un vrai métier et il faut protéger les écrivains parce que je pense que ce sont peut-être les derniers paroliers de ce monde et les derniers résistants, même si parfois aussi nous avons le droit à la légèreté. Mais arrêtez de télécharger des livres gratuitement, s'il vous plaît.
Ça, c'est un vrai fléau. Je ne me rends pas compte du nombre d'ouvrages. On parle beaucoup de
des
ça
photocopies,
dans la musique. Mais c'est vrai que...
Des photocopies. Alors après, c'est plutôt aussi dans les pays du Maghreb. Mais ça, je peux comprendre. Oui. Parce que les livres sont très chers en Algérie.
Oui.
Et tant mieux si, voilà, y a des, s'il y a des petit trafic, mais
du vol de livres pour
mais
aller
sur
vers
Internet, le beau, ouais. Oui, moi je sais qu'il y a des livres entiers qu'on trouve, alors je ne devrais même pas le dire, mais arrêtez, vous nous tuez. Mm. Est-ce que nous vous volons votre salaire ? Et ce n'est pas trivial, ce n'est pas vulgaire de le dire, ce n'est pas vulgaire de parler de l'argent et de l'écriture. Oui, l'art est magnifique, mais pour pouvoir créer, il faut aussi pouvoir en vivre.
Comment est-ce qu'on fait justement, Serge Joncourt, pour en vivre aujourd'hui de la littérature ? Est-ce qu'on est obligé, sur votre profil Twitter, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous dites, pour votre description, vous dites « écrit ». Donc ça veut dire que vous n'écrivez pas que des livres, c'est aussi, votre métier, c'est d'écrire. Donc vous avez écrit des scénarios, voilà, c'est toujours une activité d'écriture, mais est-ce que ça, c'est indispensable justement pour continuer à écrire ?
Ah, bah écrire, moi j'ai toujours écrit finalement, et puis bah là c'est comme pour la couette, je sens rattrapé par un mouvement comme ça, unanime et universel. Tout le monde se met à écrire.
Parce c'est vrai.
Que sur Twitter, alors oui, il y a des images, des gifs, des choses, mais enfin quand même, il y a un moment où on se qualifie un peu par la façon dont on formule l'affaire, quoi. Sans parler des mails et autres. Donc l'écrit, c'est une sorte de... quelque chose qui revit, qui irrigue complètement, jusqu'à des gens qui probablement n'écrivaient pas, enfin, qui écrivent encore des lettres, très franchement, assez peu, alors que sur Twitter, sur Facebook, hein, quand même, il y a... Ouais, et puis après, je ne parle pas des messages personnels, privés, enfin bon, des choses comme ça. Et donc voilà, après, il y a une forme d'aptitude. Bon, moi, je l'ai identifié chez moi parce que je pense que c'est comme une aptitude à dessiner, quoi. Parfois, je fais des ateliers d'écriture. Je demande de décrire la pièce. Là. Et là, on voit très vite.
C'est quoi ? C'est une vision différente ? C'est une façon de. C'est l'ordonnancement des mots ?
C'est déjà une façon de voir. Mm-hmm. Il y en a qui voient dans la pièce des choses que moi, je n'avais pas vues. Mm-hmm. Un carreau qui se décèle, ou je ne sais pas quoi. Et il y a ceux qui voient, ou celles qui voient tout. Quoi. Il y a ceux qui ne voient pas vraiment, ceux qui très vite parlent d'eux dans cette pièce. Enfin, bon, tout ça, c'est quand même. C'est pour ça que cet exercice de la nouvelle, il est fascinant, parce que écrire, on peut tous le faire, hein, mm-hmm. mais
Après, il y a écrire pour être lu, écrire pour être
alors, ça, c'est autre chose,
publié,
oui.
Écrit. C'est ça, c'est aussi l'activité ensuite quand Nina Bouraoui en parle. C'est quelque chose de viscéral dont vous parlez. C'est pas
oui,
simplement
puis
d'une activité.
Aussi, faut parler du don.
Oui.
Il y a le don d'écriture alors qu'il faut travailler. Mm-hmm. Mais moi, je sais qu'à 8 ans, j'avais le don de l'écriture oui. et que je ne l'ai jamais séparé de moi. C'est aussi mon identité. C'est ainsi que je me présente au monde. Je me sens un écrivain, parce que tu as raison, c'est une façon de voir le monde, de voir les êtres, de percevoir aussi les sentiments d'une autre façon. En tous les cas, c'est restituer le monde par ce filtre-là. Et toujours la musicalité. Voilà, moi j'étais une grande admiratrice de Marguerite Duras. Mmh. J'ai eu la chance de la rencontrer et je me souviens du son. C'est-à-dire que on entend un écrivain.
Bah justement, on va entendre aussi une forme de voyage où, avec les mots d'un écrivain, on peut aller à Timimoun, on peut aller dans cet hôtel presque hôtel, presque nuit d'hôtel parfaite. Dans le Mac de l'été, on ne bouge pas, un voyage immobile via la musique. On va à Honolulu, c'est aujourd'hui, avec Israël Kawiwoole, Over the Rainbow. Pour le Mac de l'été de ce jour. Merci Nina Bouraoui, merci Serge Joncourt d'avoir été avec nous. Je vous invite à faire l'acquisition d'une nuit à l'hôtel, ce hors-série de l'hebdomadaire Le 1, avec 11 nouvelles, notamment celle de Cécile Coulon, de Régis Geoffrey, de Valérie Zenati, qui nous mène aussi en Algérie. C'est 6,90 €, il faut donner le prix, justement, après le discours qu'on vient d'avoir ouais. sur le livre, l'achat du livre et le soutien aux auteurs. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, on a rendez-vous avec une comédienne qui m'a à chaque fois tapé dans l'œil dans les spectacles de Christophe Honoré, c'est Marlène Saldana. Je vous souhaite une très très belle fin de journée sur France Inter. À demain les amis.